Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 18 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le jour des élections appartient au peuple. Le jour des élections est le jour de la nation iranienne, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. La forte participation du peuple décevra les ennemis, a souligné le président Rouhani. La participation massive du peuple iranien aux élections présidentielles, largement couverte par les médias français. Le Hezbollah irakien, nous sommes entrés dans l'équation de dissuasion concernant Al-Quds, annoncé par Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Les Iraniens ont participé vendredi massivement aux élections présidentielles. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a glissé son bulletin de vote dans l'urne dans les premières minutes de l'ouverture des bureaux de vote à Téhéran. Le jour des élections est le jour de la nation iranienne. Aujourd'hui, le principal acteur est le peuple. C'est le peuple qui, en votant, détermine la destinée générale et fondamentale du pays pour les années à venir, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. Le jour des élections appartient au peuple et quoi que la nation iranienne fasse aujourd'hui contribuera à la construction de son avenir et déterminera son sort pour de nombreuses prochaines années, a-t-il souligné. Et le guide suprême de la révolution islamique de poursuivre, la raison pour laquelle nous invitons constamment les gens à participer aux élections est que le premier effet de cette présence revient au peuple lui-même. Bien entendu, avec la présence du peuple, le pays obtient également de grands avantages sur la scène internationale. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que personne ne peut dire qu'un seul vote de ma part ne changera rien. Tout au contraire, même un seul vote sera certainement significatif. Je crois qu'il faut y entrer avec l'intention de gagner la satisfaction de Dieu pour être récompensé. Nous espérons qu'aujourd'hui, grâce à la bénédiction de l'imam Reza, sera un jour de fête pour la nation iranienne. Ce sera le cas par la faveur de Dieu et la nation verra son bien à travers ces élections. Si Dieu le veut, a conclu l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. L'élection présidentielle est l'une des élections les plus importantes du pays. La forte participation du peuple décevra les ennemis, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Le président Rouhani s'est rendu au QG des élections de l'Iran au ministère de l'Intérieur en vue de déposer son bulletin de vote dans les urnes. Évoquant les facilités électroniques offertes par le gouvernement iranien lors de l'élection présidentielle, Hassan Rouhani a déclaré « Chaque année, nous faisons un pas en avant dans le domaine des élections électroniques et les moniteurs qui existent actuellement au QG des élections du pays montrent simultanément combien de personnes ont participé aux élections à travers le pays. L'authentification est une question importante qui se fait maintenant via le système électronique et même le vote et le dépouillement des votes dans une grande partie des centres provinciaux se font par le système électronique et j'espère que dans un proche avenir, toutes les étapes des élections, du vote et du dépouillement électronique se dérouleront via la plateforme électronique car cela contribuera aux élections, a souligné le président Rouhani. Toute personne qui a une carte d'identité iranienne doit avoir ses droits préservés. Je me considère comme le serviteur du peuple iranien. Déjà, admet que le peuple est titulaire du droit, a déclaré Ebrahim Raisi, candidat à la 13e élection présidentielle. Après avoir déposé son bulletin de vote dans les urnes, Ebrahim Raisi a déclaré dans une conférence de presse « Aujourd'hui est un jour béni pour la prise de décision de la grande nation iranienne, le jour du vote du peuple et de l'attention maximale portée à la décision du peuple. Toutes les institutions de la République islamique sont basées sur le vote du peuple. C'est l'un des honneurs de la République islamique d'Iran que le vote du peuple est décisif dans le pays, a souligné Ebrahim Raisi. Se référant aux prétendants à la démocratie en Occident, Raisi a déclaré « D'autres prétendent de superficiellement respecter le vote du peuple, mais la République islamique d'Iran a montré que depuis le début de sa création, ces institutions ont été formées sur la base du vote du peuple. » Appréciant la présence du peuple sur la scène électorale et la performance des organes exécutifs et des structures de contrôle des élections, il a déclaré « Mon conseil en tant que candidat des serviteurs du peuple auprès des gouverneurs est de veiller à ne pas utiliser un seul vote contre la décision du peuple ». La participation massive du peuple iranien à la 13e élection présidentielle 2021 est largement couverte par les médias français, y compris par l'AFP, Le Figaro, France 24, Le Monde et le RFI. Malgré la propagande négative orchestrée depuis quelques mois dans les médias occidentaux à propos des hypothèses erronées sur l'abstention du peuple iranien dans les élections présidentielles, la présence remarquable des Iraniens dans les bureaux de vote dans les premières minutes de la tenue des élections ont causé la grande surprise des médias français. Le correspondant de l'agence de presse de France, AFP, dans un rapport, a couvert cette participation massive du peuple iranien dans la troisième élection présidentielle 2021. Dans une partie de son article, l'agence de France Presse a mis l'accent sur le rôle et le fonctionnement du président de la République dans la structure politique d'Iran. Le président, en tant que haut fonctionnaire de la, de l'État, exerce également une influence significative dans des domaines allant de la politique industrielle aux affaires étrangères. Et pour rappel, 500 journalistes étrangers représentant de 226 médias internationaux de 5 continents du monde ont couvert les élections présidentielles iraniennes de 2021, selon le vice-ministre iranien de la culture et de l'orientation islamique pour la presse et l'information, Mohammad Khodadadi. Le ministre des Travaux publics et d'Habitat de Syrie a examiné avec le ministre iranien des routes et du développement, président du côté iranien du comité économique mixte syro-iranien, les perspectives de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la construction. Lors d'une rencontre à Damas, le ministre des Syriens des Travaux publics et de l'Habitat a fait allusion à l'examen des mécanismes de suivi de la coopération entre les deux ministères dans le cadre de l'ordre du jour du comité mixte. De son côté, le ministre iranien des routes et du développement urbain a insisté sur l'importance des visites mutuelles pour suivre les questions du programme exécutif entre les deux parties et de trouver un mécanisme qui permettrait aux entreprises iraniennes accréditées d'avoir une présence active pendant la prochaine phase dans les domaines du marché syrien. Les brigades du Hezbollah en Irak ont annoncé que l'entité sioniste a tenté au cours des dernières décennies d'imposer une équation de sécurité censée lui permettre de faire face à toute force qui menace son entité de l'intérieur ou de l'extérieur de la Palestine occupée, soulignant que nous sommes entrés dans l'équation de dissuasion concernant Al-Quds, annoncé par le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. Les brigades du Hezbollah irakien ont, dans un communiqué, déclaré que l'entité sioniste a agressé le peuple palestinien, profitant du soutien des États-Unis, de leurs alliés et des dirigeants traîtres, ajoutant que l'entité sioniste a commis des crimes majeurs contre les peuples de la région, y compris l'Irak, contre lequel elle a lancé plusieurs attaques et menace toujours d'en mener d'autres. Toujours dans leur communiqué, les brigades du Hezbollah irakien ont indiqué que la brutalité des sionistes ne se limitait pas aux Palestiniens innocents, mais s'étendait au-delà pour toucher le reste de la région. Le président de l'Union africaine pleure le décès du premier président zambien. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté ses condoléances après le décès du premier président de la Zambie, Knete Kunda. Il a fait part dans un communiqué de son sentiment de perte indescriptible à l'annonce de la disparition de celui qui fut l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Lors de la célébration cette année de la Journée d'Afrique, fêtée en fait de tous les 25 mai, l'Union africaine avait rendu hommage à M. Kunda, alors âgé de 97 ans, en lui attribuant un prix spécial pour son rôle et son énorme contribution à la libération de l'Afrique et de ses peuples. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat à l'approche de l'élection présidentielle iranienne prévue demain, 18 juin. Nous allons nous pencher au cours de cette édition du débat sur cette élection cruciale. Hier, dans un discours important adressé à la nation, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a qualifié de décisive l'élection présidentielle de demain. Dans son discours, L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné les aspects républicains et islamiques de l'élection, du processus électoral en effet en Iran. Et il a rappelé que les ennemis avaient tenté au cours des dernières années par tous les moyens possibles de dissuader la population de se rendre aux urnes. Le leader de la révolution islamique a également averti que, en effet, un taux faible de participation aux élections se solderait par le durcissement des sanctions et des pressions contre la nation iranienne et pousserait les ennemis, en effet, à imposer davantage de sanctions à la nation iranienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette élection cruciale, mais surtout sur le discours important du leader de la révolution islamique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À l'approche de l'élection présidentielle du 18 juin, le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, s'adresse à la nation dans un discours télévisé où il a qualifié la prochaine élection de décisive. Dans son discours en direct diffusé en ce mercredi 16 juin à la télévision d'État et sur les réseaux sociaux, le leader de la révolution islamique a insisté à la fois sur les aspects républicains et islamiques de l'État en Iran. Le leader de la révolution islamique a déclaré que les médias américains et anglais, ainsi que leurs mercenaires, avaient tenté de creuser un fossé entre le peuple iranien et l'État en essayant de décourager les gens de participer à l'élection présidentielle. Parce que rester à l'écart des élections, c'est rester à l'écart de l'État, a-t-il souligné. Mais la majeure partie du peuple a montré que malgré tout ce que les médias étrangers disent, elle fera le contraire, a déclaré l'ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique a déclaré que les élections devraient être considérées comme allant au-delà des points de vue des factions et des courants politiques, qualifiant la participation aux élections d'acte de vertu. L'ayatollah Khamenei a déclaré qu'un taux de participation élevé aux élections signifie que l'État bénéficie d'un soutien populaire profond, ce qui aura un impact exceptionnel sur la puissance de l'Iran sur la scène internationale. Il a déclaré que les ennemis de l'Iran cherchaient à décourager les électeurs parce qu'ils savaient que si l'État n'avait pas le soutien du peuple, il pourrait avoir l'espoir de déstabiliser le pays. Le leader de la révolution islamique a déclaré qu'une faible participation aux élections entraînerait une pression accrue sur l'Iran de la part des ennemis du pays. L'ayatollah Khamenei a déclaré que les élections organisées en Iran ont toujours été tenues dans les meilleures conditions, précisant que l'élection des présidents précédents, au point de vue politique parfois divergent, en est la preuve.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, depuis Stockholm, et M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Monsieur le professeur Dortiguier, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je ne sais que d'abonder. Bonjour à vos auditeurs et à notre très très cher ami de toujours, Monsieur Ahmed Rami.
Comme vous le savez, monsieur le professeur, l'élection présidentielle iranienne prévue de demain, 18 juin, alors à l'approche de cette élection cruciale, le leader de la révolution islamique a tenu un discours important hier. Il a qualifié cette élection de décisive. Alors, justement, pour retenir ce qualificatif décisive, dans quelle mesure cette élection présidentielle, au moment où, justement, les ennemis ont tenté et tentent toujours de creuser un fossé entre la population iranienne et l'ordre islamique, dans quelle mesure cette élection en effet révélerait une fois de plus, montrerait au grand jour la puissance de la République islamique d'Iran sur la scène internationale.
Quand on dit décisif, le mot signifie donc qu'il faut couper avec de mauvaises habitudes et affirmer au contraire une nature forte, une nature qui va à l'encontre justement de défauts accumulés sur lesquels spéculent les adversaires de l'Iran. Et je m'explique, là, permettez-moi, le leader de la révolution a bien expliqué que ces sanctions des milieux essentiellement anglo-américains et de ceux qui les soutiennent, anti-questionnistes, ont pour but de faire, disons, de créer en Iran, permettez-moi de dire, une sorte de lutte des classes, c'est-à-dire d'opposer des gens qui sont touchés par ces sanctions et qui ont perdu beaucoup de leur capacité de subsistance, vous voyez, dont on entend parler, certains que je connais, beaucoup je connais, disons, dans les villes où je vais. Ces gens-là sont utilisés justement dans la stratégie anti-iranienne comme étant des forces, voyez-vous, qui pourraient affaiblir et donc introduire une sorte d'anarchie en Iran qui serait favorable au vu des étrangers. Or, il y a d'autre part des personnes, qui profitent justement des sanctions contre l'Iran à l'intérieur du pays pour pouvoir justement s'enrichir au détriment des gens. Or, cela va, tous ces deux courants vont à l'encontre, bien sûr, d'un état fort. C'est justement cette faiblesse que cherchent à entretenir par tous les moyens, essentiellement par les moyens économiques, les moyens financiers, les États qui sont traditionnellement ennemis de l'Iran. Même ennemis de l'Iran avant la révolution. N'oublions pas que même, je donne un simple exemple de la fin de la guerre de 1914-18 à l'Iran, lorsque les Anglais ont organisé une famine sur laquelle, justement, un livre a été publié aux États-Unis par un Iranien, par un agronome iranien, qui est très, très éloquent à ce sujet. Donc, cette politique, voyez-vous, est traditionnelle. C'est-à-dire, c'est une politique de pression. Et nous espérons qu'il y aura une réponse du peuple. C'est-à-dire que le peuple comprendra, disons, quel est le véritable auteur des difficultés, la véritable source, disons, des difficultés qu'il subit aujourd'hui. Et non pas, disons, cédera, comme on le fait ici en Occident, ça a été cultivé pendant des générations, à une sorte de lutte des classes qui est en réalité une sorte d'affaiblissement, de suicide de la nation. Et c'est donc c'est pour ça qu'on peut dire que le mot de décisif est très très bien choisi. Ce qui est décisif, c'est que ce qui permet de décider est une volonté forte aussi. La volonté forte, c'est l'union autour d'un principe. Bien sûr, il y a des difficultés, il y a des coupables à chercher, il y a des gens à punir, il y a des gens à rééduquer, etc. Tout ceci est vrai. Mais il faut que ceci se fasse entre Iraniens. Il ne faut pas que ces difficultés servent de prétexte à des gens qui, inlassablement, je dis avant et après la révolution islamique, n'ont de cesse que de rabaisser l'Iran et le former, comme le voulaient les Anglais après les deux guerres, un immense protectorat. Voilà exactement, la situation, qui est une situation un peu permanente de l'Iran, voyez-vous. Et je crois que les mots simples du leader de la révolution sont des mots éclairants. Et nous-mêmes, nous devrions, chacun, dans nos nations, nous inspirer justement de ces principes.
Monsieur d'Ortiguier, alors cette phrase de Monsieur Rami, que la République islamique d'Iran incarne cet esprit de justice aujourd'hui dans le monde. Donc aujourd'hui, les puissances hégémoniques et impérialistes dans le monde devraient composer avec un État fort, souverain et indépendant.
Oui, en effet, c'est l'enjeu, le véritable enjeu justement de ce qui se passe aujourd'hui, à savoir cette hostilité à l'Iran de certaines puissances, cette persécution, a en réalité une cause, mettons pour eux, rationnelle. C'est-à-dire que si un État quelconque dans le monde veut simplement que l'on parle de justice, c'est-à-dire qu'on établisse, comme a dit M. Rami, une paix sur la justice, pas sur des paroles ou des promesses ou des utopies, voyez-vous, disent par exemple, tel peuple a été spolié, eh bien ce peuple-là, on doit lui rendre les propriétés qu'on a spoliées. C'est là la question palestinienne, il n'y a pas d'autre chose. Et alors ce désordre, par exemple, qu'il a parlé pour la Palestine, ce n'est pas un désordre local. C'est un désordre général, ce désordre local n'est possible comme ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, comme cette lutte contre le terrorisme qui est fabriquée par beaucoup d'officiers. état d'injustice répété. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné la force à la paix. On donne la force au désordre. On donne la force, justement, à des organisations illégales, à des démagogues, voyez-vous. Et tout ceci nous ramène donc à l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran propose? Il propose des politiques différentes. Évidemment, nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires intérieures de l'Iran. Mais il y a un cadre de cette politique. Le cadre de cette politique, c'est la justice. La justice, bien sûr, qui repose sur la civilisation islamique, qui a donné, justement, on peut dire, de grands exemples de justice. Et j'ajouterai pour nos auditeurs européens de charité, surtout quand on voit ce que la Turquie, par exemple, a fait en 1841, quand elle a aidé l'Irlande à lutter contre la famine imposée par les Anglais. Je donne cet exemple, entre autres, voyez-vous. Eh bien, c'est, disons, cette situation de l'Iran est une situation exemplaire. Et cette situation-là, quels que soient les défauts de la politique intérieure, il y a des principes. Et c'est sur ces principes-là que ne supportent pas les fauteurs de troubles permanents dans le monde, voyez-vous. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer l'Iran. La question, c'est qu'un État qui repose sur des bases solides, des bases autonomes, des idées simples et justes de justice, est aujourd'hui intolérable. Voilà exactement, disons, la raison d'être profonde et unique, naturellement, des sanctions, des persécutions contre l'Iran, qu'on accuse de tous les maux inimaginables, de vouloir posséder des armes atomiques. Alors que, écoutez, tout ceci, ce sont des, comment dire, des agitations, peut-on dire diaboliques, si je puis me permettre de dire ça, pour justement dissimuler la réalité. Cette réalité, l'Iran, on peut la conserver. L'Iran est utile à son peuple, mais l'Iran, tel qu'il est constitué, est également comme un modèle de justice utile au monde, car un État doit se montrer exemplaire, non seulement comme exemple à l'intérieur de chez lui, mais également à l'extérieur de chez lui. Et nous avons besoin de cet Iran-là.
Merci encore, monsieur le professeur. Nous avons Ahmad Rami. Ahmad Rami, monsieur Rami, est-ce que vous nous entendez?
Oui, très
voilà,
bien.
Voilà, parfait, on vous entend très bien. Monsieur Rami, donc, l'honorable Ayatollah Khamenei, dans son discours d'hier, a souligné que les Iraniens décevront une fois de plus les ennemis. Justement, dans cette élection, l'élection présidentielle de demain, qu'est-ce qui fait peur aux ennemis de la République islamique d'Iran?
Oui, c'est la question essentielle. Car quelle est la différence entre l'Iran et les États-Unis? Quelle est la différence actuellement entre Ayatollah Khamenei et Biden? C'est que Biden est une marionnette d'Israël. Il faut dire que Israël n'occupe pas seulement la Palestine, Israël occupe les États-Unis politiquement, occupe la France politiquement, occupe les pays européens politiquement. Donc la seule force de l'Iran, c'est qu'elle ne se laisse pas être occupée par la politique. Elle n'obéit pas aux ordres, aux instructions du lobby sioniste mondial. Donc c'est l'Iran aujourd'hui, en réalité, il est le symbole de l'indépendance, de la résistance et d'être du côté de la justice, parce que les problèmes essentiels maintenant qui différencient l'Iran des autres pays que les médias sionistes sont en train de présenter comme des modèles, c'est que l'Iran est pour la justice dans la question palestinienne. Je crois que c'est essentiel. Et de là découle aussi que l'imam Khamenei, il est choisi par le peuple iranien, alors que Macron sont choisis par le lobby sioniste mondial qui occupe presque le monde entier, en réalité, tous les pays. Donc l'Iran aujourd'hui est le seul pays, la seule nation qui est fièrement indépendant et libre. Donc c'est ce qu'ils appellent, eux, la force de l'Iran. C'est pour ça qu'ils combattent l'Iran, que les ennemis de la justice combattent l'Iran. Voilà.
Merci infiniment, M. Rami. M. Dortiguier, sur les conditions du déroulement des élections d'une part et d'autre part, l'ambiance électorale générale notamment en ce qui concerne la campagne électorale, bien sûr, les médias occidentaux, là aussi, ils ont tenté, en effet, d'inverser en quelque sorte la réalité. Alors, d'abord, sur les conditions du déroulement de ces élections, votre constat. Et deuxièmement, alors, parce que là aussi, les milieux politiques et médiatiques de l'Occident ont tenté de faire croire que, il faudrait s'attendre à, en effet, à une ambiance qui pourrait, par exemple, en effet, qui ne serait pas dans l'intérêt du peuple iranien. Et ce n'est pas quelque chose d'étrange de la part, d'ailleurs, des médias occidentaux. Mais qu'est-ce qui pourrait changer, justement, vous avez parlé tout à l'heure des principes. Qu'est-ce que cette élection, au regard et d'après les milieux politiques et médiatiques de l'Occident, pourrait changer, justement, dans ces principes? Est-ce qu'il y aurait un changement, contrairement à ce que disent, justement, ces milieux, M. Dortiguia?
Eh bien, ces médias, disons, politiques et journalistiques occidentaux, nous disent que ces élections verront le triomphe des conservateurs, etc. On nous parle d'élections comme si elles étaient déjà faites, voyez-vous. Elles passent toujours. Les gens, elles divisent les gens selon des partis politiques, des orientations politiques. Alors donc, pour agiter un épouvantail, c'est-à-dire s'il y a des conservateurs au pouvoir, alors ça va être un Iran agressif, etc. Et tout ceci pour dissimuler, c'est ce que dit M. Rami, l'agressivité réelle, bien sûr, par exemple des milieux sionistes et de ceux qui veulent encore intervenir en Syrie pour les aider directement ou indirectement. Voilà exactement comment est présenté, disons, non pas d'une façon aussi agitée, les élections en Iran. C'est-à-dire qu'on ne montre pas des institutions, on montre des courants politiques. Or, le propre du leader de la révolution, Ayatollah Khamenei, c'est de dire justement que, naturellement, qu'il y a des courants politiques, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, ou qui ont des opinions, disons, différentes, des appréciations différentes. Mais il y a, disons, une constitution, il y a une manière d'agir, il y a, disons, ce que disait M. Rami, un sentiment d'indépendance, disons, de l'Iran. Et cela, on veut l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire ceux qui occupent l'Occident aujourd'hui, voyez-vous, essaie de l'occulter. On veut présenter, disons, les élections en Iran comme une querelle entre des conservateurs très durs et des gens, disons, libéraux qui sont intimidés par eux. On essaie de faire, de favoriser l'idée qu'il y a une lutte civile en Iran, voyez-vous, non pas une lutte armée, mais une lutte civile qu'on vit dans une atmosphère de pression, voyez-vous, et que l'Iran n'est pas suffisamment mûr pour choisir, que le peuple n'est pas suffisamment mûr pour comprendre la valeur de ces institutions, et par là même, disons, avoir le choix des candidats, disons, qu'il estime bon ou moins bon. Voyez-vous, c'est une sorte de contestation dans les médias d'ici, de la maturité du peuple iranien. Et cette contestation de la maturité, elle s'est faite en Orient, entre autres, au Liban, partout, par les occupations qu'on dit françaises du Liban, qui en réalité, M. Rami ne me démentira pas, étaient des occupations qui, sous le drapeau français, couvraient d'autres intérêts qui sont toujours à l'œuvre, justement, dans la destruction des pays d'Orient. Voilà exactement, disons, comment nous pouvons apprécier l'agitation. Et que si, bien sûr, je conclurai là-dessus, il y a une grande participation qui est souhaitable donc en Iran, cela signifiera justement pour les observateurs internationaux et ceux qui font de l'agitation, justement, cela montrera qu'il faut qu'ils se montrent prudents, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reculent devant un peuple déterminé, voyez-vous, qui ne peuvent pas semer des graines de discorde.
Merci, M. Dortiguia.
Tout à l'heure, des luttes de classe, voyez-vous. Et donc, ceci fera reculer et par là même permettra à tous les peuples, en premier les peuples d'Orient, qui sont victimes de tous ces terrorismes, de ces mensonges, des mensonges de parole, des mensonges armés, qui détruisent les populations, cela verront dans l'Iran, justement, comment dire, une sorte de phare, disons, de havre de paix, voyez-vous, qui, naturellement, n'obéit pas aux injonctions de l'extérieur, mais défend, en défendant ses propres intérêts, défend lui-même les intérêts des autres peuples indépendants qui veulent rester indépendants dans la région.
Merci.
C'est-à-dire
merci.
Que l'Iran, en réalité, est un rempart contre l'agression générale dirigée vers l'Orient et sur le monde, bien sûr, mais surtout depuis la fin de la guerre de 1914.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Rami. Monsieur Rami, en deux minutes, s'il vous plaît. Monsieur Dortiguet l'a rappelé, les milieux politiques et médiatiques de l'Occident ont tenté de diviser l'Iran, de diviser en effet la population iranienne, les citoyens iraniens, d'après leur appartenance politique, et d'occulter en effet la véritable identité de l'Iran islamique. Pourquoi ?
Vous savez, qu'il est aujourd'hui, parce que les médias d'Occident, Israël, les États-Unis, tous les ennemis de l'Iran, ils sont satisfaits de la situation en Arabie Saoudite, où il n'y a pas d'élection. En Égypte, où il n'y a pas non plus d'élection. Au Soudan, dans les Émirats, au Maroc, quelle est la différence en réalité? Parce que maintenant, l'ennemi essentiel d'Israël, c'est-à-dire des États-Unis aussi qui sont des instruments d'Israël, c'est l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est le seul pays qui soutient la justice dans la Palestine. Il ne faut pas oublier ça, vous voyez. Donc, quand il parle de la démocratie en Iran, des conservateurs, des conservateurs, etc. Mais de quoi ils parlent en Arabie Saoudite? Quand ils parlent de l'Arabie Saoudite, ils sont satisfaits de la dictature pro-sioniste, le plus grand ami d'Israël et des États-Unis dans la région, ce sont l'Arabie Saoudite, c'est le régime égyptien, le régime du Maroc, le régime des Émirats, etc. Donc c'est un bluff quand ils parlent de la démocratie ou des élections, alors que leurs plus grands ennemis dans toute la région, ce sont des régimes où il n'y a pas du tout des élections. Hein. Le peuple n'a pas choisi entre deux ou trois. On lui impose un régime dictatorial dont on est satisfait ici en Occident, car il est Israël est satisfait parce que ce sont des amis d'Israël. C'est tout.
Directeur de Radio Islam depuis Stockholm, monsieur le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Bonne journée.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Parole d'experts.
Le président américain Joe Biden a achevé sa tournée européenne par une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Genève mercredi 16 juin. Plus court que prévu, le sommet a pris fin au bout de 3 heures au lieu des 4 à 5 heures prévues. Que retenir de ce sommet? Faut-il s'attendre à un rapprochement imminent entre Washington et Moscou? Pierre Dortiguet, politologue français, s'exprime sur le sujet.
En effet, le rapprochement, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, entre la Russie et les États-Unis, qui est un mouvement constant d'ailleurs dans les relations russo-américaines, ce ne sont pas des adversaires, disons, irréconciliables. Ce sont des gens qui sont, les Russes et les Américains, qui veulent avoir une place ou définir leur place à l'intérieur d'un ordre très difficile à maintenir, qui est l'ordre international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ceci couvre à la fois la période des relations américano-russes, à la fois sous le régime communiste, qui a succédé donc le régime de Staline, le régime ensuite de Khrouchtchev, de Brejnev, et en même temps aussi les régimes, disons, qui sortent de la transformation, disons, de la Russie après M. Gorbatchev. Les liens entre la Russie et la Chine sont souvent, la Russie, pardon, et les États-Unis sont souvent sous-estimés ou mal compris. Il y a un point commun, indépendamment bien sûr toutes les oppositions qu'il peut y avoir, les affrontements même, qui ont été souvent sanglants, enfin, à travers, par personnes interposées, surtout en Asie, au Vietnam et en Corée. Il y a, disons, l'idée commune d'un ordre, fondé sur le prestige de la technique, le prestige de la force armée, etc. Et nous n'en voulons pour preuve, ce n'est pas des paroles en l'air que nous lançons, nous n'en voulons pour preuve que l'absence, et nous le répétons, nous le redisons si souvent, pardon, de négociations sur le désarmement entre les deux. C'est-à-dire que ce que nous avions connu à l'époque de Reagan, à l'époque, disons, de Gorbatchev et autres, aujourd'hui n'est plus le cas. Et malheureusement, l'horizon est très sombre. Parce que si ces deux nations, deux grandes nations, ces deux grands empires, disons, ne procèdent pas à des mesures de, disons, de désarmement contrôlé, nous arriverons à une sorte de politique de puissance qu'un jour ou l'autre, disons, l'un des deux dirigeants de ces empires ne pourra pas arrêter. Et c'est là, disons, un point extrêmement délicat. Et alors, la Chine, de ce point de vue, disons, a deux aspects. Vous savez que la Chine a été, pendant même sous le régime communiste, opposée pendant un certain temps à la Russie. Il y a des intérêts, disons, qui sont particuliers. Et elle s'est insérée dans le paysage industriel mondial en étant ce qu'on appelle l'usine du monde. C'est vrai qu'il y a des investissements occidentaux très importants, américains aussi, il ne faut pas l'oublier en Chine. Mais ceci ne satisfait pas, bien sûr, le développement social, le développement, disons, les ambitions légitimes de jouer un rôle en Asie. Et ce rôle en Asie fait que la Chine peut être considérée non pas comme un concurrent de la Russie et des États-Unis, mais également comme une troisième puissance qui ne se confond pas, qui ne se confond ni avec l'un ni avec l'autre, et a ses intérêts proprement asiatiques. Voilà, disons, comment je pourrais voir ce qu'on appelle ces rapprochements, ces liens entre la Russie et d'une part, et les États-Unis d'un côté, et la Chine de l'autre. Il semble en tout cas que la Chine est un développement tout à fait autonome, et que ce soit d'un côté son rattachement théorique au communisme, que ce soit de l'autre côté, disons, sa présence, vous savez, qui est forte sur le continent américain, en particulier au Canada, vous voyez, nous voyons, disons, là, avec la Chine, la possibilité d'une troisième puissance qui pourrait gêner ou même, à la limite, rapprocher les États-Unis, mais dans un avenir tout à fait incertain, et les États-Unis et la Russie, dans une sorte, disons, de préservation de leurs intérêts propres. Tout ceci, bien sûr, est sur un fond de vie, je dirais, moralement, disons, permettez-moi de le dire, un fond de vie qui est assez matérialiste, je reconnais. Nous avons affaire, dans ces trois nations très différentes, à un affrontement de puissance.
L'Empire américain d'Occident met ses troupes en ordre de bataille. Le 14 juin s'est déroulé au quartier général de Bruxelles le sommet OTAN, le Conseil Atlantique Nord, au plus haut niveau des chefs d'État et de gouvernement. il a été présidé formellement par le secrétaire général Stoltenberg, de fait par le président des États-Unis Joe Biden, venu en Europe pour appeler aux armes les alliés dans le conflit mondial contre la Russie et la Chine. Le sommet OTAN a été précédé et préparé par deux initiatives politiques dont Biden a été le protagoniste. La signature de la nouvelle charte atlantique et le G7, et sera suivie par le sommet du président Biden avec le président russe Vladimir Poutine le 16 à Genève. L'issue en est préannoncée par le refus de Biden de tenir, comme c'est l'usage, une conférence de presse finale avec Poutine. La nouvelle charte atlantique signée le 10 juin à Londres par le président des États-Unis et par le premier ministre britannique Boris Johnson est un document politique significatif auquel certains médias n'ont donné qu'un faible écho. La charte atlantique historique, signée donc par le président américain Roosevelt et par le premier ministre britannique Churchill en août 1941, deux mois après que l'Allemagne avait envahi l'Union soviétique, énonçait les valeurs sur lesquelles allait se fonder le futur ordre mondial garanti par les « grandes démocraties », entre guillemets, avant tout le renoncement à l'emploi de la force, l'autodétermination des peuples et leurs droits égaux dans l'accès aux ressources. Après que l'histoire a démontré comment ont été appliquées ces valeurs, à présent la charte atlantique revitalisée réaffirme l'engagement à défendre certaines valeurs démocratiques contre ceux qui essayent de les miner. À cette fin, donc, USA et Grande-Bretagne assurent les alliés qu'ils pourront toujours compter sur cette dissuasion nucléaire et que l'OTAN restera une alliance nucléaire. Le sommet G7, qui s'est déroulé en Cornouailles les 11 et 13 juin, intime à la Russie de mettre fin à son comportement déstabilisant et à ses activités malignes, y compris son interférence dans les systèmes démocratiques d'autres pays, et accuserait aussi la Chine de pratiques commerciales qui minent le fonctionnement équitable et transparent de l'économie mondiale, entre guillemets. Avec ces paroles et quelques autres, donc, formulées dans les paroles mêmes de Washington, les puissances européennes du G7, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Italie, qui sont en même temps les plus grandes puissances européennes de l'OTAN, se sont alignées sur la ligne des États-Unis avant même le sommet de l'OTAN. Celui-ci s'est ouvert en déclarant que la relation avec la Russie est au point le plus bas depuis la fin de la guerre froide, et cela est dû aux actions agressives de la Russie et au fait que le renforcement militaire de la Chine, sa croissance influence et son comportement coercitif posent des défis à la sécurité de l'OTAN. Véritable déclaration de guerre qui, renversant la réalité, ne laisse pas de place à des tractations qui relâchent la tension. Le sommet a déclaré ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Alliance fondée sur l'agenda OTAN 2030. On renforce le lien transatlantique entre États-Unis et Europe sur tous les plans politiques, militaires, économiques, technologiques, spatiales et autres, avec une stratégie qui s'étend à l'échelle mondiale, du nord et sud de l'Amérique à l'Europe, de l'Asie à l'Afrique. Dans un tel cadre, les États-Unis déploieront sous peu, en Europe contre la Russie et en Asie contre la Chine, de nouvelles bombes nucléaires et de nouveaux missiles nucléaires à portée intermédiaire. D'où la décision du sommet d'augmenter ultérieurement la dépense militaire. Les États-Unis, dont la dépense se monte à presque 70% de la dépense totale des 30 pays de l'OTAN, poussent les alliés européens à l'augmenter. L'Italie, depuis 2015, a augmenté sa dépense annuelle de 10 milliards en la portant en 2021, selon les données de l'OTAN, à environ 30 milliards de dollars, la cinquième en ordre de grandeur parmi les 30 pays de l'OTAN, mais le niveau qu'elle doit atteindre dépasse les 40 milliards de dollars annuels. En même temps est renforcé le rôle du Conseil Atlantique Nord, l'organe politique de l'Alliance qui, selon les normes de l'OTAN, décide non pas à une majorité mais toujours à l'unanimité et de commun accord, c'est-à-dire d'accord avec ce qui est décidé à Washington. Cela comporte un affaiblissement ultérieur des parlements européens, notamment du Parlement italien, déjà aujourd'hui privé de réels pouvoirs décisionnels en politique étrangère et militaire, puisque 21 des 27 pays de l'Union européenne appartiennent à l'OTAN. Mais tous les pays européens ne sont pas sur le même plan. Grande-Bretagne, France et Allemagne traitent avec les États-Unis sur la base de leurs propres intérêts, tandis que l'Italie se range derrière les décisions de Washington contre ses propres intérêts. Les désaccords économiques, par exemple celui entre Allemagne et USA sur le Nord Stream, passent cependant au second plan face à l'intérêt supérieur commun, faire en sorte que l'Occident maintienne sa prédominance dans un monde où émergent ou réémergent de nouveaux sujets étatiques et sociaux.
Thank you.